Chapitre 32. Voici comment cela s'était fait. En s'asseyant dans la télègue à côté de Paul, Nejdanov fut saisi tout à coup d'une extrême surexcitation. À peine avait-il débouché de la cour sur la route et s'était-il mis à rouler dans la direction du district de T, qu'il commença d'appeler, d'arrêter les paysans qui passaient, de leur tenir des discours aussi brefs qu'incohérents. « Voyons, s'écriait-il, vous dormez? Levez-vous! L'heure est arrivée! À bas les impôts, à bas les propriétaires !» Certains paysans le regardaient avec étonnement, d'autres passaient leur chemin sans faire aucune attention à ses cris. Ils le croyaient ivre. L'un d'eux, en rentrant chez lui, raconta même qu'il avait rencontré un Français qui avait grasseillé dans son baragouin on ne savait quoi. Nejdanov avait assez d'esprit pour comprendre jusqu'à quel point sa conduite était absurde et même stupide. Mais il s'était peu à peu si bien monté qu'il avait cessé de distinguer le raisonnable de l'absurde. Paul s'efforçait de le calmer, lui disait « Voyons, voyons, c'est impossible comme cela ». Lui expliquait qu'on arriverait bientôt à un grand village, le premier après la frontière du district de T, et que là on pourrait s'informer. Mais Nejdanov ne l'écoutait seulement pas. Et pendant tout ce temps, son visage avait une expression de tristesse presque désespérée. Le cheval qui les traînait était une petite bête toute ronde, vigoureuse, à la crinière coupée très court sur son cou busqué. Elle remuait fort agilement ses petites jambes robustes et tirait constamment sur les rênes avec ardeur, comme si elle se fût dit qu'elle traînait des gens très pressés. Avant d'avoir atteint le grand village en question, Nejdanov aperçut, non loin de la route, devant la porte d'une grange vide, 8 paysans. Il sauta immédiatement de la télègue, courut à eux, et pendant 5 minutes, leur débita rapidement un discours entrecoupé de cris soudains avec force gestes désordonnés. Les mots « liberté »,« marchons », »,« poitrine en avant », vociférés d'une voix haute, enrouée, ressortaient au milieu d'une foule d'autres moins intelligibles. Les paysans, qui s'étaient réunis devant le grenier pour aviser au moyen d'y mettre un peu de blé, ne fût-ce que pour la montre, c'était un grenier communal et par conséquent vide, fixaient leur regard sur Nejdanov et avaient l'air d'écouter très attentivement son discours. Mais probablement ils n'y comprirent pas grand-chose, car lorsqu'enfin il s'en retourna en courant avec un dernier cri de « liberté », l'un d'eux, le plus perspicace de tous, hocha la tête d'un air profond et dit « comme il est sévère ». Et un autre ajouta « ça doit être un chef ». À quoi le paysan perspicace répliqua « pardi, sans ça il ne s'écorcherait pas tant le gosier. Gare à notre argent, on va le faire pleurer ». Nejdanov, montant dans la télègue, s'asseyant auprès de Paul, se dit en lui-même « mon Dieu, quel galimatia ». Mais, après tout, personne de nous ne sait au juste comment il faut faire pour soulever le peuple. Peut-être est-ce comme ça. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Tant pis, ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait, mais tant pis encore, en avant. Ils entrèrent dans la rue du village. Au beau milieu, devant la porte d'un cabaret, était rassemblé un groupe assez nombreux de paysans. Paul essaya de retenir Nejdanov, mais celui-ci avait déjà dégringolé de la télègue, et avec l'exclamation « frère », il s'était précipité dans la foule. On lui fit place, et Nejdanov se lança dans une nouvelle prédication, sans regarder personne, d'un ton à la fois furieux et pleurard. Mais le résultat qu'il obtint fut tout autre que celui de son discours devant le grenier. Un énorme gaillard, au visage imberbe mais féroce, vêtu d'une demi-pelisse courte et graisseuse, chaussé de grandes bottes et coiffé d'un bonnet en peau de mouton, s'avança vers Nejdanov et lui abattit violemment sa main sur l'épaule. « Tu as raison, tu es un bon gars, » brailla-t-il d'une voix de tonnerre. « Mais attends, ne sais-tu pas que cuillère sèche écorche la gueule? Viens par ici, nous serons bien plus à l'aise pour bavarder. » Il entraîna Nejdanov dans le cabaret, toute la bande se précipita à leur suite. « Mikéitch !» cria le grand gaillard. « Allons, de l'eau de vie à 10 kopecks, mon verre favori. Je régale un ami. D'où il sort, de quelle race il est, le diable le sait. Mais il tape rudement sur les seigneurs. « Bois !» dit-il à Nejdanov, en lui tendant un gros verre lourd, plein, tout humide extérieurement, qui avait l'air d'être couvert de sueur. « Bois, puisqu'en effet, tu nous veux du bien à nous autres. « Bois !» vociféra la foule. Nejdanov saisit le verre, il était comme suffoqué, et cria « À votre santé, mes enfants !» Et il le vida d'un trait. Ouf ! Il le vida avec une résolution désespérée, comme il aurait fait pour se jeter sur une batterie ou sur une rangée de baïonnettes. Mais, grand Dieu, qu'est-ce qui lui arriva? Quelque chose le frappa violemment le long du dos et des jambes, lui brûla le gosier, la poitrine, l'estomac, fit jaillir des larmes de ses yeux. Une convulsion de dégoût, qu'il eut peine à maîtriser, parcourut tout son corps. Il cria à tue-tête pour tâcher n'importe comment de calmer cette horrible sensation. Tout dans le sombre cabaret devint chaud, collant, étouffant. Et ce qu'il y avait de monde! Il se mit à parler longuement, à crier avec emportement, avec fureur, à taper dans de larges mains dures comme du bois, à embrasser des barbes gluantes. Le colosse en demi-pelisse l'embrassa aussi et faillit lui enfoncer les côtes. Mais celui-ci se montra un vrai monstre. « J'arracherai le gosier, » hurlait-il, « j'arracherai la gueule à celui qui fera du tort à nos frères. Je lui assènerai un atout sur le sommet du crâne. Vous l'entendrez piauler. J'en fais mon affaire. J'ai été bouché, moi. Cette besogne-là, ça me connaît. » En parlant ainsi, il montrait son énorme poing rouge, couvert de taches de rousseur. Et tout à coup, Seigneur Dieu, une voix rugit de nouveau, « Bois !» Et Nejdanov de nouveau avala cet infâme poison. Mais cette fois l'effet fut terrible. Ce fut comme si des crochets émoussés de fer lui labouraient les entrailles. Dans sa tête un mouvement de houle, devant ses yeux des cercles verts. Un tintement s'éleva, un vacarme. Horreur ! Un troisième verre ! Est-ce possible qu'il l'ait avalé ? Des nez rouges se ruèrent vers lui, des chevelures poussiéreuses, des coups hâlés, des nuques hachées, ravinées de rides en tous sens. Des mains velues le saisissaient de toutes parts. « Allons, débite ton discours !» hurlaient des voix frénétiques. « Allons, parle ! Avant-hier, un étranger comme toi nous en a fameusement dégoisé. Va donc, feu des quatre pieds, fils de chienne !» La terre oscillait sous les pieds de Nejdanov. Sa propre voix lui faisait l'effet d'une voix étrangère qui serait arrivée du dehors. Serait-ce la mort ? Et tout à coup un air frais lui frappe le visage. Plus de bousculade, plus de trogne rouge, plus de puanteur d'eau-de-vie, de peau de mouton, de goudron, de cuir. Il se retrouve assis sur la télègue à côté de Paul. Son premier mouvement est de vouloir s'élancer en criant « Où vas-tu ? Arrête ! Je n'ai pas encore eu le temps de rien leur expliquer. » Puis il ajoute en interpellant Paul « Et toi-même, diable d'homme, rusé grand-père, « quelles sont tes opinions ?» Et Paul lui répond, « Ça serait parfait s'il n'y avait point de maître, et si toute la terre nous appartenait, ça va sans dire. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'oukase qui ordonne ça. » Et tout en parlant, il fait doucement tourner sa télègue en arrière, puis tout à coup il secoue les rênes sur le dos du cheval, et les voilà lancés à fond de train, loin de la cohue et du vacarme, dans la direction de la fabrique. Nejdanov est à moitié endormi. Son corps se balance à droite et à gauche. Le vent lui souffle agréablement au visage et abat les mauvaises pensées. Une chose seule lui cause du dépit, c'est qu'on ne l'ait pas laissé énoncer ses idées. Mais de nouveau, le vent caresse son visage enflammé. Puis l'apparition de Marianne, une sensation momentanée et brûlante de honte, et puis un sommeil de mort. Paul raconta tout cela à Solomine. Il avoua même qu'il n'avait pas empêché Nejdanov de boire, car c'était le seul moyen de l'arracher à ce cabaret. Les paysans ne l'auraient pas lâché. Quand il a été affaibli par l'eau-de-vie, j'ai dit aux paysans, avec force salut, « Allons, braves gens, laissez partir ce garçon-là, regardez, c'est si jeune. » Ils l'ont lâché, mais en disant, « Donne un demi-rouble de rachat. » Et je l'ai donné. « Et tu as bien fait, » lui dit Solomine. Nejdanov dormait, et Marianne, assise devant la fenêtre, regardait la muraille de l'enclos. Chose étrange, les idées et les sentiments mauvais, presque colère, qu'il avait agité avant l'arrivée de Nejdanov, s'était enfui tout d'un coup. Nejdanov même n'était pas pour elle un objet de répulsion ni de dégoût. Elle n'avait pour lui que de la pitié. Elle savait parfaitement qu'il n'était ni un débauché ni un ivrogne, et elle pensait déjà à ce qu'elle pourrait bien lui dire d'amical quand il s'éveillerait, pour l'empêcher d'avoir trop de honte ou de chagrin. « Oui, se dit-elle, il faut que je m'arrange pour que lui-même me raconte comment ce malheur lui est arrivé. » Elle n'éprouvait aucune agitation, mais elle était triste, profondément triste. Il lui semblait respirer une bouffée de l'atmosphère véritable qui entourait ce monde inconnu où elle voulait courir, et cette grossièreté, ces ténèbres épaisses la faisaient frémir. À quel Moloch allait-elle donc s'offrir en sacrifice? Mais non, ce n'était pas possible. Il n'y avait là qu'un hasard, et tout rentrerait dans l'ordre. C'était une impression passagère qui l'avait frappée si fort, uniquement parce qu'elle était trop soudaine. Marianne se leva, s'approcha du divan où était couché Nejdanov, essuya avec un mouchoir ce front pâle, douloureusement contracté même pendant le sommeil, et rejeta en arrière les cheveux du jeune homme. Elle se reprit à le plaindre, comme une mère plaint son enfant malade. Mais sa vue lui causait du malaise. Elle rentra doucement dans sa chambre, en laissant la porte ouverte. Elle ne prit aucun ouvrage pour occuper ses doigts. Elle s'assit, et les mêmes rêveries vinrent la reprendre. Elle sentait le temps couler goutte à goutte, minute à minute, et ce sentiment lui faisait plaisir. Et son cœur battait, comme si de nouveau elle eût attendu quelque chose. Où donc Solomine se cachait-il? La porte grinça doucement et Tatiana entra. « Que voulez-vous ? » lui dit Marianne avec un mouvement de contrariété. « Marianne, répondit Tatiana à demi-voix, écoutez, ne vous faites pas de chagrin, ça peut arriver à tout le monde. Et encore, il est très heureux que... Je ne me fais pas du tout du chagrin, Tatiana, interrompit la jeune fille. Nejdanov est un peu malade, ça n'est pas un grand malheur. Allons, tant mieux. C'est ce que je me disais. Ma Marianne ne vient pas, qu'est-ce qui lui arrive? Mais tout de même, je ne serais pas venu, parce que dans ces moments-là, la première règle est « ne touche pas et ne t'en mêle pas ». Seulement, il y a un individu qui vient de se présenter à la fabrique, je ne sais pas qui ça peut être. C'est une espèce de boiteux, tout petit, il veut à toute force qu'on lui apporte Nejdanov. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ce matin, cette femme, à présent, c'est ce boiteux. Et comme je lui disais que Nejdanov n'était pas ici, alors il a demandé Solomine. « Je ne m'en irai pas sans ça, dit-il, parce que c'est pour affaire très sérieuse. » Nous avons voulu le renvoyer, comme cette femme, en lui disant que Solomine non plus n'est pas là, qu'il est sorti. Mais le boiteux, « Je ne m'en irai pas, a-t-il dit, j'attendrai jusqu'à la nuit s'il le faut. » Et il se promène dans la cour. « Tenez, venez par là dans le corridor, vous pourrez voir par la fenêtre si vous le reconnaissez, ce personnage-là. » Marianne suivit Tatiana. En passant près de Nejdanov, elle remarqua encore la contraction douloureuse de son front, qu'elle essuya de nouveau avec son mouchoir. Elle aperçut à travers les vitres poussiéreuses de l'étroite fenêtre le visiteur dont parlait Tatiana. Il lui était inconnu. Mais en cet instant, Solomine déboucha de derrière le coin de la maison. Le petit boiteux s'approcha vivement de lui et lui tendit la main. Solomine la prit. Évidemment, il connaissait cet homme. Tous les deux disparurent. Mais des pas retentissent dans l'escalier. Il monte. Marianne retourna lestement dans sa chambre et s'arrêta au beau milieu en respirant avec effort. Elle avait peur. De quoi? Elle n'en savait rien elle-même. La tête de Solomine apparut sur le seuil. « Marianne, permettez-nous d'entrer chez vous. J'amène quelqu'un qu'il faut absolument que vous voyiez. » Marianne acquiesça d'un simple hochement de tête et, à la suite de Solomine, vit entrer Pacline. Chapitre 33. « Je suis un ami de votre mari, » dit Pacline en s'inclinant profondément devant Marianne, comme pour essayer de lui cacher son visage bouleversé par l'inquiétude et la frayeur. « Et je suis aussi un ami de Solomine. Nejdanov dort, il est malade, à ce que j'apprends. Moi, malheureusement, j'apporte de mauvaises nouvelles, que j'ai déjà eu le temps de communiquer en partie à Solomine, et à la suite desquelles il faudra prendre certaines mesures décisives. » La voix de Pacline se brisait constamment, comme celle d'un homme que tourmente la soif et qui a la bouche sèche. La nouvelle qu'il apportait était en effet fort mauvaise. Markelov, saisi par des paysans, avait été conduit par eux à la ville. Le commis de Golouchkine avait dénoncé son maître, qu'on avait arrêté. Golouchkine, à son tour, dénonçait tout le monde, racontait tout ce qu'il savait. Il proposait de se convertir à la religion grecque et faisait cadeau à un gymnase du portrait du métropolitain Philarète. Il avait déjà envoyé 5 000 roubles pour être distribués aux guerriers invalides. On ne pouvait douter un seul instant qu'il n'eût dénoncé Nejdanov. D'un moment à l'autre, la police pouvait faire une descente à la fabrique. Solomine aussi était en danger. « Quant à moi, ajoutait Paklin, une seule chose m'étonne, c'est que je puisse encore me promener librement. Il est vrai que je ne me suis jamais occupé sérieusement de politique, et que je n'ai pris part à aucun conciliabule. Bref, j'ai profité de l'oubli ou de la négligence de la police pour venir vous mettre au courant et pour aviser au moyen d'écarter tout désagrément. » Marianne écouta Paklin jusqu'au bout. Elle ne s'épouvanta point. Elle resta même fort calme. Mais Paklin avait raison. Il fallait prendre des mesures quelconques. Son premier mouvement fut de chercher le regard de Solomine. Celui-ci non plus n'avait pas l'air troublé. Seulement les muscles de ses lèvres frémissaient imperceptiblement. Il n'avait plus son sourire habituel. Solomine comprit la signification du regard de Marianne. Elle attendait ce qu'il dirait pour agir selon son avis. « L'affaire, en effet, est assez délicate, » commença-t-il. « Nejdanov ne fera pas mal, je crois, de disparaître pour quelque temps. Mais, à propos, monsieur Paklin, comment avez-vous appris qu'il est ici ?» Paklin secoua la main. « C'est quelqu'un qu'il a rencontré pendant une de ses promenades, un jour qu'il prêchait dans les environs. Cet individu l'a suivi, sans mauvaise intention d'ailleurs. Il est dans nos idées. Mais permettez-moi de vous le dire, continua-t-il en s'adressant à Marianne, réellement notre ami Nejdanov a été très imprudent. Les reproches ne serviraient à rien maintenant, répliqua Solomine. Je regrette que nous ne puissions pas nous concerter avec lui tout de suite. Mais d'ici à demain, son malaise sera passé, et la police n'est pas aussi prompte que vous le supposez. Et vous aussi, Marianne, il faudra que vous partiez avec lui. « Cela va sans dire, » répondit Marianne d'une voix sourde, mais ferme. « Oui, » reprit Solomine, « il faudra réfléchir, il faudra choisir l'endroit et les moyens. »« Permettez-moi de vous exposer une idée, » commença Paklin, « une idée qui m'est passée par l'esprit pendant que j'étais en voiture pour venir ici. Je me hâte d'ajouter que j'ai renvoyé mon cocher alors que j'étais encore à une verste de la fabrique. » « Voyons votre idée, » dit Solomine. « La voici. Vous me donnez immédiatement des chevaux, et je vole chez les Sipiagines. »« Chez les Sipiagines ?» répéta Marianne. « Pourquoi faire ? Vous allez voir. »« Mais vous les connaissez donc ?»« Pas le moins du monde, mais écoutez. Réfléchissez bien à mon idée. Elle me semble tout bonnement une inspiration de génie. Markelov est le beau-frère de Sipiagine, le frère de sa femme, n'est-ce pas ? Eh bien, vous figurez-vous que ce monsieur-là ne fera rien pour le sauver ? Et Nejdanov lui-même ? Admettons que Sipiagine soit en colère contre lui. Mais ça n'empêche pas que Nejdanov soit devenu son parent en se mariant avec vous. Et le danger qui menace notre ami ? Je ne suis pas marié, lui dit Marianne. Paklin tressaillit de surprise. Comment, depuis le temps, vous n'avez pas encore ? Bah, ajouta-t-il, on peut bien mentir un peu. En tout cas, vous vous marierez. Mais là, sérieusement, on ne peut rien trouver de mieux que mon idée. Remarquez que jusqu'à présent, Sipiagine ne vous a pas fait rechercher. Cela prouve qu'il y a en lui une certaine générosité. Je vois que ce mot vous déplaît, mettons ostentation de générosité. Pourquoi donc ne pas en profiter dans le cas actuel, dites. Marianne releva la tête et passa la main dans ses cheveux. « Vous pouvez profiter de tout ce qu'il vous plaira pour Markelov, monsieur Paklin, ou pour vous-même. Mais ni Alexis ni moi n'admettons l'intervention ou la protection de monsieur Sipiagine. Nous n'avons pas fui de sa maison pour revenir frapper à sa porte en suppliant. Nous n'avons affaire ni de la générosité, ni de l'ostentation de monsieur Sipiagine ou de sa femme. » « Voilà des sentiments tout à fait louables, » répondit Paklin, qui se dit en lui-même, « Oh, oh, me voilà arrosé d'eau froide. » quoique d'un autre côté, si l'on considère. Du reste, je suis prêt à vous obéir. Je vais m'occuper de Markelov, de notre brave Markelov tout seul. Permettez-moi de vous faire remarquer, pourtant, qu'il n'est parent de Sipiagin que par sa femme, tandis que vous... Monsieur Paklin, je vous en prie. Parfaitement, parfaitement. Mais je ne puis m'empêcher d'exprimer un regret, car Sipiagin est un homme très influent. Et pour vous-même, vous ne craignez rien ? Lui demanda Solomine. Paklin se rengorgea. Dans des moments comme celui-ci, il ne faut pas penser à soi, répondit-il fièrement. Au fond, c'était à lui qu'il pensait, au milieu de ses projets d'intervention. Pauvre petit être chétif qu'il était, il voulait prendre les devants comme le lièvre de la fable. En échange du service rendu, Sipiagin pourrait, le cas échéant, dire un mot en sa faveur. Car, en somme, Paklin avait beau dire, il se sentait compromis, il avait écouté, et même parlé. « Votre idée, dit enfin Solomine, ne me paraît pas mauvaise. » Quoiqu'à vrai dire, je ne compte guère sur le succès. En tout cas, on peut essayer. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez rien gâter. Certainement, mettons les choses au pis, supposons qu'on me chasse par les épaules. Où est le mal? Le fait est qu'il n'y aurait aucun mal là-dedans. Merci, pensa Paklin. Solomine continua. Quelle heure est-il? 4 heures passées. Il n'y a pas de temps à perdre. On va vous donner des chevaux tout de suite. Paul! Mais au lieu de Paul, ce fut Nejdanov qui apparut sur le seuil. Il chancelait sur ses jambes, se retenant d'une main au linteau de la porte, et, les lèvres faiblement entr'ouvertes, il fixait devant lui son regard trouble. Il ne comprenait rien. Paklin, le premier, s'avança vers lui. « Alexis ! » s'écria-t-il. « Tu me reconnais bien ?» Nejdanov le regarda en clignotant lentement des yeux. « Paklin ? » dit-il enfin. « Oui, oui, c'est moi. » « Tu es malade ?»« Oui, je suis malade. Mais pourquoi es-tu ici ?»« Pourquoi je... » Mais en ce moment, Marianne toucha légèrement le cou de Paklin. Il se retourna et vit qu'elle lui faisait des signes. « Ah oui, murmura-t-il, c'est vrai. »« Voilà ce que c'est, Alexis, reprit-il tout haut. Je suis arrivé ici pour une affaire importante et je repars immédiatement pour continuer ma route. Solomine te racontera tout cela. Et Marianne ?» Mademoiselle Marianne aussi. Tous deux approuvent pleinement ma résolution. Il s'agit de nous tous. C'est-à-dire non, non, fit-il sur un mouvement et regarde Marianne. Il s'agit de Markelov, de notre ami commun Markelov, de lui seul. Mais adieu. Les minutes sont précieuses. Adieu, mon ami. Nous nous reverrons. Monsieur Solomine, aurez-vous la bonté de venir avec moi pour que nous nous occupions des chevaux? « Fort bien, Marianne, je voulais vous conseiller d'être ferme, mais la recommandation est inutile. Vous êtes de la bonne trempe, vous. »« Oh oui, oh oui, oh oui !» approuva Paklin. « Vous êtes une romaine du temps de Caton d'Utique. Mais allons-nous-en, monsieur Solomine, allons !»« Vous avez le temps, » fit Solomine avec un sourire nonchalant. Nejdanov s'effaça pour les laisser passer tous deux, mais son regard disait qu'il continuait à ne pas comprendre. Puis il fit 2 pas et se laissa tomber doucement sur une chaise en face de Marianne. « Alexis, lui dit-elle, tout est découvert. Markelov a été pris par des paysans qu'il essayait de soulever. On l'a mis en prison à S, en même temps que ce marchand chez qui tu as dîné. Très probablement, la police sera bientôt là pour s'emparer de nous. Paklin s'en va chez Sipiagin. « Pourquoi faire ?» murmura Nejdanov d'une voix à peine perceptible. Ses yeux devenaient plus clairs. Son visage reprenait son expression ordinaire. L'ivresse l'avait tout à coup abandonné. Pour essayer d'obtenir sa protection. Nejdanov se redressa. Pour nous ? Non, pour Markelov. Il voulait aussi parler pour nous, mais je n'ai pas voulu. Ai-je bien fait, Alexis ? Bien fait, dit Nejdanov en lui tendant les 2 mains, sans se lever de sa chaise. Bien fait, répéta-t-il. Et l'attirant vers lui, pressant son visage contre la taille de la jeune fille, il fondit en larmes. « Qu'as-tu donc? Qu'as-tu ? » s'écria Marianne. Comme l'autre fois, quand il était tombé à ses genoux, anéanti, suffoqué par un élan subit de passion, comme alors elle posa ses 2 mains sur la tête frémissante du jeune homme. Mais ce qu'elle ressentait maintenant ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait ressenti l'autre fois. Alors elle se donnait à lui, elle se soumettait, elle attendait sa décision. Maintenant elle le prenait en pitié et ne pensait uniquement qu'à le calmer. « Qu'as-tu ? » répéta-t-elle. « Pourquoi pleures-tu ? Serait-ce parce que tu es rentré chez toi dans un état un peu étrange ? Non, ce ne peut pas être cela. Est-ce parce que tu plains Markelov ? Ou que tu crains pour moi, pour toi ? Regrettes-tu nos espérances perdues ? Mais tu ne pouvais pas t'imaginer que tout irait comme sur de l'huile. » Nejdanov releva brusquement la tête. « Non, Marianne, dit-il en refoulant ses sanglots, je n'ai peur ni pour toi, ni pour moi. Mais, en effet, je plains. » « Qui ? Toi, Marianne, toi qui as uni ta destinée à celle d'un homme qui ne le méritait pas. Pourquoi donc ? Mais tiens, par exemple, parce qu'en un moment comme celui-ci, cet homme peut pleurer. » « Ce n'est pas toi qui pleures, ce sont tes nerfs. » « Mes nerfs et moi, c'est tout un. Voyons, Marianne, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que véritablement tu peux me dire en ce moment-ci que tu ne te repens pas ? De quoi ? De t'être enfui avec moi ? Non. Et tu me suivras encore, partout ? Oui. Vraiment, Marianne ? Oui. Oui, je t'ai donné ma main, et tant que tu seras celui que j'ai aimé, je ne la retirerai pas. » Nejdanov était toujours assis sur sa chaise. Marianne se tenait debout devant lui. Il avait les mains passées autour de la taille de la jeune fille, qui appuyait les siennes sur les épaules du jeune homme. « Oui, non, » pensa Nejdanov. Et pourtant, autrefois, quand il m'arrivait de la tenir dans mes bras, comme en ce moment, son corps au moins restait immobile. Tandis qu'à présent, je le sens qui, tout doucement, peut-être malgré elle, fuit et s'éloigne de moi. Il desserra ses bras, et en effet, Marianne fit un mouvement presque imperceptible en arrière. « Écoute, » dit-il à haute voix, « s'il nous faut fuir avant que la police ne nous découvre, je pense qu'il ne serait pas mal de commencer par nous marier. Nous ne trouverions peut-être pas ailleurs un prêtre aussi accommodant que ce Zosim. »« Je suis prête, » dit Marianne. Nejdanov la regarda attentivement. « Romaine, » dit-il avec un demi-sourire amer, « le sentiment du devoir. » Marianne haussa les épaules. « Il faudra en parler à Solomine. »« Ah oui, à Solomine, » dit lentement Nejdanov. « Mais lui aussi, je pense, est menacé d'être pris par la police. Il me semble qu'il joue un rôle plus important que moi et qu'il en sait plus long. »« Je l'ignore, » répondit Marianne. « Il ne parle jamais de lui-même. » « Ce n'est pas comme moi, » pensa Nejdanov, « voilà ce qu'elle veut dire. » « Solomine, Solomine, » ajouta-t-il après un long silence. « Vois-tu, Marianne, je ne t'aurais pas plainte si l'homme auquel tu aurais lié pour toujours ta vie avait été un Solomine, ou si ça avait été Solomine lui-même. » Marianne, à son tour, regarda attentivement Nejdanov. « Tu n'avais pas le droit de dire cela, » dit-elle enfin. « Pas le droit ? Dans quel sens dois-je prendre tes paroles ? Cela veut-il dire que tu m'aimes, moi, ou que, en général, il ne convenait pas de toucher à cette question ?»« Tu n'en avais pas le droit, » répéta Marianne. Nejdanov baissa la tête. « Marianne, » dit-il d'une voix un peu altérée, « quoi ? Si en ce moment, si je te demandais, tu sais ? Non, je ne te demande rien. Adieu. » Il se leva et sortit. Marianne ne le retint pas. Nejdanov s'assit sur le divan et cacha son visage dans ses mains. Il s'effrayait de ses propres pensées et faisait tous ses efforts pour ne pas réfléchir. Il éprouvait une sensation étrange, comme si une main souterraine et obscure venait de s'emparer de la racine même de son être pour ne jamais plus la lâcher. Il savait que cet autre être, si cher qui est là, tout près, dans la pièce voisine, n'en sortirait pas pour venir le trouver, et que lui non plus n'irait pas à elle. À quoi bon, d'ailleurs ? Que lui aurait-il dit ? Des pas fermes et rapides le forcèrent à rouvrir les yeux. Solomine traversait sa chambre. Il frappa à la porte de la chambre de Marianne et entra. « Honneur et place !» murmura amèrement Nejdanov. Il avait involontairement pensé au mot d'ordre d'un factionnaire qui en relève un autre.